SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, dernière partie de notre épisode consacré à l'ancien Premier ministre John Howard. Dans celui-ci, on va s'intéresser à sa vie après la politique, après qu'il ait été Premier ministre. Il est toujours vivant et encore très très influent, à la fois dans la sphère médiatique, mais surtout la sphère politique. C'est ce qu'on va décortiquer avec l'historien Romain Fati. Très bonne écoute à tous. Alors, John Howard, il va donc finir par perdre le pouvoir en 2007. C'est à ce moment-là que les travaillistes reviennent au pouvoir, mais il n'est pas du tout raccroché de la politique. Il continue à s'exprimer très régulièrement sur le sujet. Et vous disiez un peu plus tôt qu'il va se radicaliser, se conservatiser en vieillissant. Et ses prises de position ces dernières années le prouvent amplement. Est-ce que vous pouvez nous dire, sur certains sujets qui ont animé les débats en Australie ces dernières années, comment il s'est positionné?
Bon, alors d'abord, avant de charger la barque, je voudrais rappeler qu'il est né en 1939. Il est né dans un autre monde. Un monde d'avant Deuxième Guerre mondiale, et 39 en Australie, c'est 20 ans avant pour la France ou le reste de l'Europe. C'est-à-dire que c'est un pays qui est très isolé, qui est très loin, qui est ultra conservateur, il y a la politique de l'Australie blanche. Donc c'est quelqu'un qui est né dans un monde qu'il a vu progressivement disparaître. Aujourd'hui, un Australien sur trois est né à l'étranger, un Australien sur deux a un parent né à l'étranger. C'est un pays multiculturel et ça se voit. John Howard est resté de sa génération. Alors, sa génération n'est pas uniforme, bien évidemment. Vous avez des gens plus ou moins progressistes et d'autres plus ou moins conservateurs. Mais vis-à-vis du droit des homosexuels, par exemple, vis-à-vis du droit à l'abortion,
il est l'avortement.
Conservateur.
Alors,
oui, l'avortement, enfin, je m'excuse, pardon. Et puis, surtout, vis-à-vis des politiques culturelles et migratoires, et enfin, sur la question aborigène. C'est quelqu'un qui conserve ses valeurs, et là-dessus, il faut lui reconnaître une certaine cohérence. Ses valeurs sont partagées probablement par de moins en moins d'Australiens, mais elles restent les siennes, elles sont de son époque, et c'est pas quelqu'un qui a avancé avec son temps, comme par exemple d'autres premiers ministres de droite, comme le premier ministre pour lequel il avait travaillé, Malcolm Fraser, qui sur sa fin de vie est devenu un activiste pour la question des migrants, par exemple, pour la question des droits de l'homme, pour la question de la paix dans le monde. Donc voilà, on donne à chacun la possibilité d'évoluer dans ses convictions politiques et idéologiques. Certaines personnes de gauche vont virer plus vers la droite ou vont se radicaliser encore plus vers la gauche. Certaines personnes de droite vont... Vous voyez, chacun évolue comme ça. John Howard, lui, il est resté un peu figé dans le formol. C'est-à-dire que ses positions d'antan, de manière générale, sont demeurées ses positions aujourd'hui.
Et donc, vous le disiez, sur un certain nombre de sujets, il est resté très conservateur. Je fais une liste non exhaustive, mais donc il a voté contre la légalisation du mariage homosexuel en 2017, si je ne me trompe pas. Il a fait activement campagne contre.
Il s'est prononcé contre.
Il n'était plus élu à ce moment-là. Oui. Très activement campagne contre la création de la voix aborigène au Parlement. On sait que ce référendum a également été un échec en 2023. Et pour parler de quelque chose de beaucoup plus proche de nous, c'était eh bien en décembre dernier, après l'attentat de Bondi. Il a été le premier dans son camp politique à accuser très directement Anthony Albanese d'être quasiment responsable de cet attentat en n'ayant pas assez fait pour lutter contre l'antisémitisme.
Je crois que vous avez fait un très bon état des lieux de ce point de vue-là. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il représente une mouvance encore très forte dans la droite australienne. C'est-à-dire que au sein du Parti libéral, vous avez des personnes qui sont beaucoup plus ouvertes sur ces questions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Parti libéral australien est totalement divisé. La grande réussite de John Howard, c'est d'avoir su tenir ses troupes et de leur donner à manger des victoires assez régulières. John Howard s'est un peu modelé sur Menzies, qui était le premier ministre qui a servi l'Australie le plus longtemps. John Howard a réussi à être numéro 2, si vous voulez, dans ce classement, premier ministre pendant un peu plus de 11 ans. Et une des raisons de son succès, c'est la manière dont il a su unir le parti de gouvernement. On parle du Parti libéral, mais en réalité, il y a quelques autres petits partis qui travaillent au sein de cette coalition. Et c'est quelqu'un qui a réussi à manier ses équilibres politiques. Il faut lui reconnaître un génie politique. On ne peut pas gagner 4 élections fédérales sans être doué. Les travers du Parti libéral aujourd'hui, qui est totalement explosé avec les Nationals, avec un parti One Nation d'extrême droite qui monte en flèche, s'explique par les questions de politique identitaire soulevées sous Howard. Howard, c'est un combattant idéologique. Il le dit ouvertement. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où lui, il explique qu'il en a marre de la Black Armband History, c'est-à-dire que l'histoire où vous auriez un bandeau noir sur le bras, un bandeau noir de deuil, où il faudrait constamment donner des excuses, présenter des excuses vis-à-vis de la colonisation, vis-à-vis des massacres, vis-à-vis de ce que l'Australie a mal fait dans le Pacifique, etc. Lui, il dit, je veux que nous soyons fiers de notre passé, qu'on arrête de se morfondre et que nous soyons une Australie unie. C'est quelque chose qu'il a toujours défendu et qu'il défend encore aujourd'hui. Or, aujourd'hui, dans les populations plutôt éduquées et progressistes du Parti libéral, vous avez pas mal d'électeurs qui sont en désaccord. Et cette frange plus progressiste de la droite australienne, aujourd'hui, est complètement séparée de la frange radicale. Et ça explique pourquoi le parti libéral et ses partis alliés, qui étaient la machine électorale de John Howard, ça explique pourquoi aujourd'hui, cette machine est totalement grippée, désunie et incapable de gagner toute forme d'élection parce qu'ils sont très divisés sur des questions identitaires.
A new SBS music station is coming.
SBS Pop Euro.
Filled with Eurovision hits non-stop.
You want more? Tune in from the 1st of May.
On DAB Radio, online.
The SBS Audio app.
And SBS On Demand.
Alors, vous venez de le dire, l'une des difficultés très importantes hein, que traverse le Parti libéral actuellement, elles trouvent leur origine dans les combats menés par John Howard lorsqu'il était au pouvoir. L'autre question que je me pose, donc on l'a dit, il s'exprime encore très régulièrement dans les médias sur tout un tas de sujets. Je crois qu'il est également très régulièrement consulté par les membres du Parti libéral. Est-ce qu'il a encore une forte influence sur ce parti et peut-être plus largement sur la politique australienne aujourd'hui, près de 20 ans après qu'il ait quitté le pouvoir?
Oui. Il a ce rôle de patriarche. Il est important qu'il vienne vous soutenir lors d'une élection. C'était un peu le Nicolas de Sarkozy il y a quelques années, si vous voulez. John Howard, c'est un peu le dernier grand premier ministre de droite que ce pays a connu. Il n'est pas comparable au Tony Abbott ou au Scott Morrison de droite qui l'ont suivi, qui n'était pas très bon et vraiment qui ne lui arrive pas à la cheville, très clairement. Et donc, John Howard a gardé cette aura auprès de la classe politique, mais aussi auprès de certains Australiens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec lui, mais qui lui accordent le fait d'avoir été un Premier ministre qui a régné pendant assez longtemps, et puis d'autres qui le soutiennent très franchement, qui sont en total accord avec ses valeurs. Ce rôle-là, il commence à s'effriter parce que John Howard vraiment se radicalise par rapport à son parti, mais il l'a tenu pendant bien une quinzaine d'années, et il le tient encore à certains égards, on le consulte, mais c'est quelqu'un d'âgé, hein. Il est né en 1939, donc voilà, il y a un moment où peut-être qu'il n'y arrivera plus parce que l'âge prendra le dessus, mais il demeure une figure importante de la classe politique australienne, reconnue comme telle, honorée comme telle, et en fait, il est vraiment la figure de... Comment dirais-je? C'est un peu un cas d'école sur qu'est-ce que va devenir la droite australienne, parce qu'elle doit réfléchir à son avenir. Soit elle demeure une droite de pouvoir, c'est-à-dire une droite respectable et qui s'occupe de l'économie, de l'armée, des écoles, etc. Soit elle va virer identitaire et elle doit se scinder et choisir son camp. Un peu comme Éric Ciotti l'a fait, si vous voulez, en passant... très clairement en devenant un allié du Front National, alors que l'UMP s'y oppose encore. Cette division, cette question de où va la droite, c'est marrant parce qu'elle peut s'inscrire, se lire en parallèle entre la France et l'Australie, où il y a vraiment des divisions dans cette partie du spectre politique.
Eh bien, merci beaucoup Romain pour toutes ces explications. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté les épisodes de cette mini-série sur les premiers ministres les plus marquants de l'histoire. On s'arrête avec John Howard parce que les suivants, on a considéré que c'était de l'histoire trop récente et qu'il n'y a peut-être pas encore tous les enseignements qui en ont été tirés. Ceci étant dit, si ça vous intéresse, sachez que ABC a produit deux excellents documentaires que je vous recommande vivement de voir. Un premier qui couvre en gros l'exercice du pouvoir par Kevin Rudd et Julia Gillard entre 2007 et 2013. Ça s'appelle The Killing Season. Et un suivant qui couvre le retour des conservateurs au pouvoir, donc Tony Abbott, Scott Morrison et entre les deux Malcolm Turnbull. Ce documentaire-là s'appelle Nemesis. Et tous les deux sont disponibles et visionnables gratuitement sur la plateforme iView. Romain, encore une fois, merci beaucoup pour tous ces épisodes. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre sujet historique qui ne s'intéressera plus cette fois à des personnalités politiques, mais peut-être à un événement, à un fait particulier. Bref, on va revenir à un épisode plus normal sur notre podcast sur l'histoire de l'Australie.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Our medicine returns for a powerful new season.
Our role is being there on someone's worst day.
It can also be a really tough place to work.
Step onto the front line with First Nations medical practitioners.
You had a fall, did you?
With unprecedented access.
You can't control what's going to happen next.
The series reveals how modern medicine and cultural knowledge work together to deliver better care.
That's a pretty beautiful thing to be part of.
Our medicine. Stream now on SBS On Demand.